Écho de la bonne nouvelle. Écho de la bonne nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Je viens bientôt, dit Jésus. Frédéric et Simon travaillaient ensemble, et voici qu'en un instant, Frédéric se retrouve tout seul. Georges et Lucienne mangeaient à la même table, et soudain, Georges disparaît. La famille dormait comme d'habitude, et le matin, la maman n'est plus là, ni le bébé. Que s'est-il passé? Réponse: le Seigneur Jésus est venu chercher ses rachetés. Tous ceux qu'il aimait sont partis au ciel vers lui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Ceux qui sont restés sur la terre ne croyaient pas ou étaient indifférents au pardon que Dieu, dans son amour, offre aux pécheurs. Ils sont perdus à toujours. La porte du ciel a été fermée définitivement pour eux. Terrible. On partira ou on restera? Où seras-tu? Aimes-tu Dieu? As-tu la paix avec lui? Les rachetés attendent avec joie la promesse de leur Seigneur qui a dit: je viens bientôt. Apocalypse chapitre 21, verset 7, verset 12, verset 20. Qui ne croit pas au Seigneur Jésus reste chargé de ses péchés. Il offense terriblement Dieu, car Dieu est saint et amour. La fornication, l'adultère, le vol, le mensonge, la haine ne sont pas les seuls péchés qui l'outragent. Le manque d'amour pour les autres, l'égoïsme, les mauvais propos, les injures et bien d'autres choses constituent une muraille épaisse entre chaque pécheur et Dieu. Les péchés et le refus de croire rendent les pécheurs coupables. Comment ôter cette barrière et cette culpabilité? Dieu seul le peut. Il est amour et il a sacrifié sur la croix son Fils Jésus-Christ en rançon pour nous. Entre dans ta chambre ou va dans un lieu seul avec Dieu et là, mets-toi à genoux. Reconnais, confesse à Dieu tes fautes, tes péchés avec repentance et humiliation. Dis-lui que tu es un grand pécheur. Demande-lui pardon pour tous tes péchés. Il t'aime et il effacera tous tes péchés. N'attends pas que Jésus revienne, alors il sera trop tard pour être sauvé. Sois courageux et demande grâce à Dieu car il t'aime. Il t'appelle avec bonté. Aujourd'hui, Dieu pardonne à quiconque se repent. Il pardonne parce que Jésus-Christ, son Fils, est mort sur une croix en rançon pour les coupables. Jésus-Christ est mort cloué sur la croix par amour pour chacun. Là, il a expié les péchés de tous ceux qui croient en lui. Le pardon de Dieu est gratuit, total, éternel. C'est le don le plus merveilleux de Dieu. Un arbre reconnu à ses fruits. Beaucoup de gens se disent chrétiens, sont baptisés, vont de temps à autre à l'église, chantent des cantiques. Mais ce n'est pas cette pratique qui les sauve. Il y en a de ceux-là qui resteront sur la terre après le retour du Seigneur. Ils le supplieront d'être acceptés dans le ciel, disant « Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. » La réponse sera « Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Un croyant racheté porte normalement des fruits, par exemple l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Ce sont les fruits de la vie de Jésus dans le croyant. Les comportements, les actes peuvent être copiés et imités par des efforts de volonté ou par une éducation chrétienne. Ils ne sont pas les fruits de la vie de Jésus. Celui qui n'a pas la vie éternelle n'aura pas d'entrée au ciel, même s'il imite les chrétiens. Il est resté un faussaire, un trompeur et un menteur, un pécheur qui pratique l'iniquité. Qu'en est-il de toi? Il est tragique de se tromper. Si tu n'as pas la paix avec Dieu, confesse-lui tes péchés, accepte Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie. C'est ça, croire. Par le sacrifice de Jésus à la croix, Dieu effacera tous tes péchés, te donnera la vie éternelle et tu pourras porter du fruit pour Dieu sur la terre et entrer dans le ciel quand Jésus reviendra. La grâce. La grâce de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu exprimé envers les hommes coupables. Cette grâce est apparue dans le monde quand le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, est venu vers les hommes impies pour les sauver. Aujourd'hui encore, Dieu aime les pécheurs, mais il hait leurs péchés. Les coupables envers lui, il les cherche pour les sauver. Il leur offre de pardonner entièrement et définitivement leurs iniquités. Pouvait-il faire plus? Oui, il leur donne le droit d'être maintenant ses enfants, d'être héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Pouvait-il faire plus? Oui, il a promis de les introduire dans le ciel pour être éternellement avec Christ dans la même gloire. Allez-vous lui dire « Non, je ne crois pas » Votre refus outrage Dieu et sa grâce. Refuser, c'est aussi choisir. Choisir d'être pour toujours perdu, loin de Dieu, condamné avec le diable. Comment Dieu peut-il faire grâce tout en restant juste? La réponse est dans la Bible. Nous y apprenons que le Fils de Dieu est venu sur la terre en forme d'homme. Il fut le seul homme juste et parfait sur la terre. Puis, il est mort en sacrifice pour nous à la croix. Il est mort à notre place, expiant nos péchés. Dieu est juste en faisant grâce, car Jésus-Christ a payé pour nous. La grâce est efficace seulement pour ceux qui se reconnaissent coupables et perdus devant Dieu. Pour tous ceux qui viennent à lui, il a promis « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Jean chapitre 6, verset 17. La grâce chez le chrétien. Il est dit dans la Bible « Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. » Éphésiens chapitre 5, verset 1. Le premier pas à faire pour imiter Dieu notre Père, c'est d'être rempli de grâce et de vérité envers notre prochain. Quand un chrétien approche un incroyant, il lui parle de Dieu qui l'aime et veut le sauver. Quand nous rencontrons un frère ou une sœur en Christ, nous sommes heureux de parler entre nous de l'abondance de la merveilleuse grâce de Dieu envers nous. Nous sommes des justifiés, des enfants de Dieu, des bien-aimés, des saints destinés à régner avec Christ. Nous nous fortifions dans la grâce en nous encourageant à vivre sur la terre d'une manière digne de ce que Dieu a fait de nous par son amour infini. À celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Lis ta Bible chaque jour. Quand tu le peux, tu manges pour avoir un estomac plein. Tu cherches à varier ta nourriture et à ne pas toujours manger des bananes, mais à manger aussi du riz, du manioc, de la viande, des légumes, des fruits. Tu ne manges pas une fois par mois, mais tu manges si possible chaque jour. Ainsi, ton corps se développe, tes muscles grossissent, tu peux beaucoup travailler. Par contre, si tu ne manges plus, tu maigris, tu perds tes forces, tu deviens facilement malade. Tu sais aussi que nous avons une âme qui doit être nourrie. Comme le corps, elle doit être nourrie suffisamment de façon variée et régulière. La nourriture de l'âme, c'est le Seigneur Jésus. Où et comment pouvons-nous apprendre à connaître le Seigneur Jésus? C'est en lisant la Bible qui est la parole de Dieu, la révélation de Dieu aux hommes. Impossible de grandir spirituellement sans lire la Bible. Elle nous dit ce que nous étions par nature, des pécheurs, mais elle nous dit aussi ce que Dieu est et ce qu'il a fait par amour pour sauver des pécheurs et en faire ses enfants. Par elle, nous apprenons à connaître Dieu lui-même, le chemin qui mène à la vie éternelle et aussi comment le chrétien doit chercher à vivre pour glorifier Dieu. Alors, un bon conseil pour toi qui veut, dans ta vie, plaire au Seigneur Jésus qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi à la croix. Pour te nourrir, lis la Bible chaque jour très régulièrement, comme un repas spirituel. Lis-la suffisamment en sorte que tu lises le Nouveau Testament 2 ou 3 fois par an et l'Ancien Testament 1 fois par an. Réfléchis sur ce que tu as lu. C'est la méditation personnelle. Elle est indispensable pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut te transmettre. Et avant d'ouvrir la Bible, Demande à Dieu dans la prière et avec foi de te la faire comprendre. Quand tu la fermes, demande-lui de t'aider à la mettre en pratique le jour même. C'est ainsi que tu grandiras dans la piété, qui n'est autre que la relation journalière et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Êtes-vous malade? Pourquoi Dieu permet-il la maladie? C'est une question que toutes les personnes se posent. Avant que le péché entrât dans le monde, il n'y avait pas de maladie. C'est parce que nous avons laissé au diable le pouvoir de nous asservir que le péché est venu dans le monde et par suite la maladie, la mort. Une part de mystère entoure la souffrance qui atteint l'un et pas l'autre. Dieu est souverain et nous acceptons ses voies. Psaume 77, verset 13. Le Seigneur Jésus a laissé son ami Lazare devenir malade et mourir. Il l'a permis pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Jean chapitre 11, verset 1 à 14. La belle-mère de Simon-Pierre était malade avec une grosse fièvre. Le Seigneur l'a guérie et elle s'est mise aussitôt à le servir. Marc chapitre 10, versets 30 et 31. Job a été malade. Dieu l'a permis dans le but de le faire grandir dans sa foi et de nous enseigner quand nous lisons son histoire. Livre de Job. Certains croyants à Corinthe étaient malades, d'autres morts, car ils menaient une vie immorale, incompatible avec la participation au souvenir du Seigneur et de sa mort. Cela nous est rapporté pour nous montrer que prendre la scène du Seigneur est extrêmement sérieux. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 28 à 32. Nous voyons d'autres croyants malades dans la Bible. Le Seigneur a porté nos maladies. Matthieu chapitre 8 versets 16 et 17. Cela ne veut pas dire qu'il les a ôtés, mais cela veut dire qu'il a été très sensible aux maladies et aux souffrances des malades qu'il rencontrait. Il a pleuré au tombeau de Lazare. Aujourd'hui encore, le Seigneur connaît très précisément les souffrances des malades. C'est très consolant. Car nous savons qu'il s'occupe avec amour particulièrement des chrétiens malades pour les encourager et les soutenir. Il est tout à fait normal de se soigner lorsqu'on est malade. Nous consultons les vrais médecins, nous prenons les vrais médicaments. Soignons-nous en restant confiants dans le Seigneur Jésus. Il est puissant, bon et miséricordieux. Il y a un grand péché dont les chrétiens doivent avoir horreur et qu'ils doivent fuir. Les pratiques occultes, quelles qu'elles soient, ainsi que les pratiques du sorcier du village, appelé aussi guérisseur ou charlatan selon les pays. Ces sortes de gens tiennent leur pouvoir des ténèbres, des forces démoniaques, du diable lui-même. Or, le chrétien a été délivré du pouvoir des ténèbres. Le chrétien appartient à un autre royaume, dans lequel le diable n'a pas le droit d'intervenir. C'est le royaume de Dieu. Refusez énergiquement tout contact avec les guérisseurs, même si votre famille vous y pousse. Le recours aux guérisseurs du village ou aux sorciers peut être très grave de conséquences, car celui qui fait ainsi tend sa main au diable pour être guéri. Mais en faisant cela, le diable met une chaîne sur son âme. Le roi Azaria était malade. Il envoya des messagers pour consulter un dieu des païens. À cause de cela, Dieu lui a dit « Tu mourras ». 2 Rois chapitre 1, versets 2 à 4. C'était Écho de la Bonne Nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Voici notre adresse, Écho de la Bonne Nouvelle, 01, boîte postale 832, Lomé, Togo. Courriel maison des traités @yahoo.fr.